De nos jours, on parle beaucoup d'IA, mais ce matin, nous allons parler d'AI. La ville d'AI, célèbre bataille dans le livre de Josué que nous étudions en Église, la bataille d'AI. Alors, si vous prenez à cœur l'histoire d'AI, vous allez repartir ce matin avec une intelligence non artificielle, mais véritable, vraie, divine, qui vient de la Bible. Alors, je vous lis juste les premiers versets de Josué chapitre 8. Nous avons étudié le chapitre 7, évidemment la semaine dernière, et cette semaine 8, c'est la suite, avec cette ville d'Aï. Donc les premiers versets que j'affiche sur l'écran, ou que vous pouvez trouver dans vos Bibles, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Ici, nous sommes dans Josué chapitre 8. Nous avons, on pourrait dire, l'histoire par excellence dans la Bible où Dieu donne une deuxième chance à son peuple. Donc chapitre 7, c'était l'échec, c'était la défaite. Et chapitre 8, dans des circonstances très similaires, c'est la réussite, c'est la victoire. Dans le chapitre 7, comme nous avons vu la semaine dernière avec le pasteur Vincent, le peuple a engagé le combat contre la ville d'Aï. Normalement, cela aurait dû être une victoire facile. Mais la bataille s'est soldée en défaite cuisante, l'échec total. C'est comme si l'Espagne ou la France étaient éliminées dès le deuxième match du Coupe du Monde par une petite équipe comme l'Islande du Nord. Ça, c'était chapitre 7. Mais chapitre 8, c'est une deuxième chance. Dieu revient et dit à Josué, ne crains pas, ne t'effraie pas, maintenant tu vas gagner contre Aï. Et c'est la victoire. Donc, quelque part, on pourrait dire que ce texte a inspiré, on va dire, 75% des films d'Hollywood où le personnage commence avec un échec, mais après, il fait un travail sur lui-même, il apprend à affronter ses peurs et la deuxième fois, il remporte la victoire. On aime bien ce genre d'histoire. Et quelque part, c'est parce que ce schéma trouve écho dans nos cœurs, parce que c'est aussi notre histoire. C'est l'histoire que vous avez écoutée ce matin dans les témoignages de baptême. C'est l'histoire de l'humanité. L'humanité a essayé une première fois de réussir, mais sans Dieu. Et c'était le péché, le jugement et l'échec. Mais en Jésus, Dieu donne une deuxième chance. Et c'est, comme nous avons déjà dit, c'est vraiment le symbolisme du baptême. Vous avez entendu chacun dire « j'ai tenté de diriger ma vie par mes propres forces » et ça s'est soldé en échec, en péché, en être loin de Dieu. Mais maintenant, je recommence avec Dieu, avec Jésus-Christ, et j'ai une nouvelle vie. Donc, il y a une mort et puis il y a une résurrection, une nouvelle vie. Donc, même l'image du baptême, c'est vraiment l'histoire d'un nouveau départ, d'une deuxième chance. Et nous l'avons ici bien illustré dans l'histoire d'Aï. Première bataille, échec. Deuxième bataille, victoire. Donc, comment ça marche et comment nous pouvons nous-mêmes vivre une nouvelle victoire, un nouveau départ? Peut-être que ce matin, vous avez aussi besoin d'une deuxième chance. Vous avez besoin de repartir à zéro, comme nous venons de chanter. Vous avez besoin de balayer le passé. Et sachez que Dieu peut opérer une nouvelle victoire, comme il le fait pour son peuple ici à Aï. Donc j'aimerais voir dans ce récit, nous allons parcourir rapidement les détails militaires au fil de ce message, mais nous allons voir que pour revivre un nouveau départ avec Dieu, il y a un rendez-vous inévitable. Ensuite, une stratégie non anticipable, non anticipé, et enfin un monument durable. Voilà ce qui présente ce chapitre dans la bataille d'Aï, cette fois qui était victorieuse. Donc tout d'abord, voyons un rendez-vous inévitable. Donc chapitre 7, le peuple avait péché, il y avait Achan qui avait été même désigné comme coupable et lapidé, et voilà, c'est quand même le désarroi du peuple. Mais en verset 1, chapitre 8, l'Éternel dit à Josué, ne crains pas, ne t'effraie pas, monte contre Aï. Donc Dieu donne à son peuple rendez-vous de nouveau à Haï. Ce qui est intéressant, monte contre Haï. Là où vous avez eu l'échec la dernière fois, on va y retourner. Et cette fois-ci, ce sera la victoire. Mais ça, c'est intéressant. Dieu ne dit pas à son peuple, « Bon, Haï, on laisse tomber. On passe à une autre ville. On oublie, on reste sur un échec et voilà. » Non, le peuple doit passer par Haï. Ils doivent passer par l'endroit de l'échec et remporter la victoire là. Ils ne peuvent pas contourner Haï. Il y avait Jéricho, Haï, il y aura d'autres villes, mais Dieu veut qu'ils remportent la victoire contre Haï. Donc, le projet de Dieu, c'est de les rendre victorieux à l'endroit même de l'échec. Pas de faire semblant qu'il n'y a pas eu d'échec, mais de les rendre victorieux là où il y avait l'échec. Et ça, c'est vrai pour nos vies. La solution de Dieu n'est pas d'enfouir ou de fuir nos échecs passés, mais de les régler, de les vaincre et d'être victorieux. J'ai lu cette phrase qui m'a interpellé. Et, notre frère Boris disait la même chose pour introduire ce culte. Et on nous rappelle que nous sommes, oui, le produit de notre passé, mais nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Nous n'avons pas à être prisonniers de notre passé. Et c'est un des grands messages d'Haï. Oui, il y avait échec, il y avait péché, mais ils ne vont pas être définis par cet échec toute leur vie. Le peuple a ce rendez-vous de nouveau à Haï pour vivre la victoire. Vous savez, des fois, les coachs de sport vont regarder le match en replay pour voir où ça n'allait pas, corriger et remporter une victoire. Je pense à ma collègue Rachel qui dirige la chorale. Elle est plus courageuse que moi. Elle regarde les vidéos et les enregistrements de la chorale pour voir les points à améliorer. Alors que moi, j'ai trop honte peut-être de me voir en train de faire ce qu'il ne faut pas faire ou de m'entendre chanter faux. Mais si vous êtes prêt, si vous avez le courage de regarder un peu le replay de votre vie, au lieu de rester aveugle, au lieu de fuir, vous pouvez dire, voilà, là, j'ai raté. Et c'est un peu ce que vous avez entendu dans les témoignages aussi. Là, j'ai raté. Là, la gestion de cette relation amoureuse, voilà, c'était pas dans la volonté de Dieu. Et ça m'a conduit vers l'échec. Ou là, la gestion de mon corps, là, ça ne glorifiait pas Dieu. Et ça m'a conduit vers les problèmes. Là, la gestion de mon argent, la gestion de ma relation avec mes parents, mon entourage, là, effectivement, j'ai fait comme Israël a fait. Je n'ai pas écouté la volonté de Dieu. Et je constate aujourd'hui que c'était à cause de ça qu'il y avait échec. Mais de le constater, de le confesser, ça s'appelle la repentance, ça permet de repartir et d'être victorieux dans ces mêmes domaines. Une relation amoureuse, la gestion de l'argent, plein de choses qui peuvent être des points d'échec pour nous. Dieu veut nous rendre victorieux et utiliser ces choses pour le glorifier. Le comble, si vous avez remarqué dans le verset 2, le comble, c'est que cette fois-ci, en allant à Haï, cette fois-ci, il dit, vous pouvez garder pour vous le butin et le bétail. C'est-à-dire, dans la bataille de Jéricho, il avait interdit au peuple de toucher au butin, au bétail. C'était une manière de mettre vraiment Dieu en premier. Vous n'êtes pas là pour piller ce pays, vous êtes là pour exercer le jugement de Dieu contre les habitants de Canaan. Mais voilà, c'était le message, Dieu est priorité, sa gloire est prioritaire, donc on ne fait pas ça pour l'argent, tout ça. Et Achan avait désobéi à ce principe, c'est pour ça qu'il a été jugé. Mais la deuxième fois, la deuxième bataille, une fois que Dieu s'est mis en priorité et s'est montré puissant et glorieux dans leur vie, la deuxième fois, il leur dit, cette fois-ci, vous pouvez garder le butin pour vous-même. Donc, quelque part, l'objet de la tentation, la première fois, devient autorisé la deuxième fois, dans la mesure qu'ils ont compris que Dieu en premier, sa volonté domine, et après, Dieu nous donne les bonnes choses. Et c'est vrai pour nous aussi. Hein. Bien souvent, l'objet du péché, l'objet qui produit l'échec dans nos vies, n'est pas quelque chose que Dieu veut jamais nous donner. Mais il veut le donner une fois que nous avons, lui, mis en priorité dans nos vies, une fois que nous avons saisi sa personne, son amour en Jésus-Christ, une fois que nous voulons écouter sa volonté, là, il est prêt à nous le donner. Non? Une relation amoureuse, une certaine réussite, des relations d'amis, tout ça, ça peut être des bonnes choses que Dieu vous donne, dans la mesure qu'il est d'abord premier dans notre vie et que nous vivons pour sa gloire et pour sa volonté. Donc, rendez-vous, ce rendez-vous inévitable, le peuple doit passer par Haï. Là où il y avait l'échec, maintenant Dieu va les rendre victorieux et c'est beau. Ensuite, regardons cette stratégie que Dieu met en place, une stratégie qu'on aurait du mal à anticiper à l'avance, une stratégie un peu surprise pour la victoire. Il dit en verset 2, « Place une embuscade derrière la ville ». Et tous les versets suivants, de versets 3 à 26, que je n'ai pas lu, mais tous ces versets décrivent le déroulé de la bataille et comment Josué remporte la victoire, grâce notamment à cette embuscade. Alors, je vous ai mis le schéma. C'est peut-être plus facile à regarder une image sur l'écran que de suivre tous les versets, mais ça résume un peu le schéma de la bataille et que vous puissiez comprendre ce matin. Donc, tout d'abord, Josué détache une partie de son armée qui va placer en cachette derrière la ville d'Haï. Ça, c'est la ville d'Haï. Et donc, une partie de son armée se cache de nuit derrière la ville. Ensuite, Josué sort avec le principal de l'armée. Et eux, ils font semblant d'attaquer, ils avancent contre Haï. Donc, les habitants d'Haï, les soldats d'Haï, sortent pour rencontrer la force qui attaque. C'est le 4. Et à ce moment, Josué, il va feindre une retraite. Donc, il se retire. Et Haï va les poursuivre pour les attaquer. Mais à ce moment-là, le numéro 6, ceux qui étaient cachés attaquent, envahissent la ville et mettent le feu à la ville. Donc la ville était en train de brûler alors que toute l'armée est maintenant sortie en train d'engager l'autre partie avec Josué. Et donc à ce moment, Josué, il regarde que leur ville est en train de brûler. C'est un problème. Donc ils essaient de faire demi-tour. Mais ceux qui ont brûlé la ville sortent à leur rencontre. La force principale de Josué arrive. Ils sont coincés entre les deux. Et c'est la défaite totale pour Haï. Voilà, la bataille d'Haï. En soi, c'est une stratégie digne de Napoléon. Mais plusieurs choses surprennent, je dirais, dans ce récit. Tout d'abord, c'est intéressant de voir que les victoires dans ce livre ne sont jamais remportées exactement de la même façon. Jéricho, c'était une autre stratégie. Vous vous souvenez de Jéricho? Là, il n'y avait rien de militaire dans la victoire de Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés par pur miracle. D'ailleurs, c'est même une démarche bizarre de faire le tour de la ville et puis à un moment juste de sonner les trompettes. Donc, les murs de Jéricho sont tombés par pur miracle, sans aucune stratégie militaire. Ici, Dieu utilise la stratégie militaire sans miracle. Et on se dit, mais pourquoi Dieu agit comme ça? Ça nous surprend un peu. Pourquoi il ne fait pas haïr ce qu'il a fait à Jéricho? Il fait juste tomber les murets. Mais Dieu agit ainsi. Des fois, il utilise des moyens miraculeux. Des fois, il utilise des moyens ordinaires pour accomplir sa victoire. Difficile des fois à anticiper ce que Dieu va faire, mais c'est sa stratégie à lui et pas la nôtre. Peut-être pour vous secourir, vous aider, vous donner la victoire, Dieu va vous envoyer un secours miraculeux qui semble tomber du ciel. Et puis la prochaine fois, son secours prendra la forme peut-être d'une discipline de vie normale, une sagesse décisionnelle. En tout cas, laissez-vous surprendre par la manière dont Dieu va vous secourir dans les victoires qu'il veut vous faire remporter. Mais encore plus marquant, c'est ce Dieu qui conseille l'embuscade, la ruse, la feinte, la surprise de nuit, la cachette. C'est étonnant. Dieu, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Mais en fait, c'est bien sage de sa part. Dieu va utiliser l'orgueil, le mépris, l'autosuffisance des habitants d'Haï pour donner la victoire à son peuple. Parce que eux, ils pensent à la fois précédente, dans le chapitre 7, ils ont dit, ah oui, c'était, on a eu la, c'était des fastoches, on a eu la victoire comme ça, aucun problème. Et donc, quand il y a le deuxième engagement, ils disent, ah oui, nous, on va pouvoir mater ce peuple, détruire ce peuple, aucun problème. Et c'était leur défaite de d'avoir cette attitude-là. Et quelque part, tout cela nous rappelle l'ultime stratégie non anticipée de Dieu, c'est-à-dire de livrer son fils à Satan. L'apôtre Paul appelle ça la sagesse cachée de Dieu. Satan et les autorités politiques et religieuses de ce monde, ils étaient un peu comme les habitants de Haï, ils ont vu Jésus, le fils de Dieu, mais ils l'ont vu dans son état humain, faible, minable, et ils se sont dit, ah ben c'est trop facile, on va le tuer, et puis la victoire est à nous, et on n'en parle plus. Mais ils sont en quelque sorte tombés dans le piège, dans leur propre piège. C'est beau au moment d'une bataille, à ce moment-là, là, quand ils mettent le feu, le verset 18, je vous lis juste, c'est l'Éternel qui agit, verset 18, l'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait dans la main. Aussitôt, il eut étendu sa main. Les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Donc, il y a un moment où, en fait, Josué maîtrise la situation. Et au bon moment, il lève ce javelot comme signal que voilà, vous pouvez maintenant entrer dans la ville et la victoire est à nous. Et les ennemis, ils ont complètement pris au dépourvu. Alors, ce moment où Josué lève son javelot, ça fait penser aussi au moment où Jésus, quelque part, il va sur la croix, mais ensuite il ressuscite des morts. Ce qui faisait partie de sa stratégie depuis le début, et là, la victoire est assurée, garantie. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire nos ennemis spirituels, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » C'est ce que Jésus a fait à ses ennemis, en quelque sorte, il les a... quelque part, la stratégie semble simple, une embuscade. Ils auraient dû penser, mais non, c'est quelque part, on trouve, ils se trouvent dépouillés, livrés en spectacle face à une victoire supérieure. Et c'est ça la croix. Dieu a utilisé le mal, la haine, l'orgueil contre Jésus pour remporter une victoire, pour mettre fin à ces choses dans nos propres cœurs. Et en regardant à la croix, nous avons l'ultime stratégie que le monde ne peut pas anticiper, mais Dieu livre son Fils à la croix, à la mort, et c'est cette mort-là qui met fin à nos ennemis. Et puis, une autre stratégie surprise, étonnante, qu'on aurait du mal à anticiper, c'est qu'il utilise des personnes normales pour remporter cette victoire. Et encore ce matin, il est capable de dire à chacun de nous, voilà, je veux t'utiliser pour montrer ma puissance, ma sagesse, ma stratégie surprise. Comme quelqu'un a témoigné, hein, c'est lorsque nous sommes faibles que Dieu est fort. Et l'apôtre Paul a cette réflexion sur la croix, puisque Jésus était faible à la croix, et c'était la sagesse cachée de Dieu qui montrait vraiment toute sa force et sa puissance. Il dit, il fait la même chose avec nous, avec son Église. L'apôtre Paul dit, regardez autour de vous. Parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont. Voilà aussi l'histoire d'Haï. Dieu utilise ce peuple qui commence à apprendre à se battre, mais ce ne sont pas des guerriers en soi. Ils ont confiance en lui et par sa sagesse, par la stratégie que lui met en place, il se glorifie, il remporte une grande victoire. Et enfin, on termine avec un monument durable. Je vais vous lire maintenant la fin du chapitre. à partir du verset 28, c'est ainsi qu'on termine un peu le chapitre, un résumé de la victoire. Je vais afficher les versets où vous pouvez suivre dans votre Bible, à partir du verset 28. Donc Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre un bois de le roi de Haï et l'y laissa jusqu'au soir, au coucher du soleil. Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont d'Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Un peu plus tard, Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. On commence à constater dans ce livre de Josué encore quelque chose d'étonnant, c'est que le livre de Josué est rempli de mentions de tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. Vous avez peut-être vu ça dans le texte, verset 28, un morceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Encore verset 29. On éleva sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et à la fin du chapitre 7, même chose. On éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Donc il y a tous ces tas de pierres dans le pays qui subsistent encore au moment où il écrit ce livre, au moment où les premiers lecteurs vont lire le livre. Et donc leur pays semble parsemé de tas de pierres. Et ils se demandent, mais c'est quoi ces tas de pierres? Eh bien, ils ont l'explication dans le livre de ces tas de pierres. Mais ici, il y a le tas de pierres de la ville d'Haï. Il y a le tas de pierres du cadavre du roi qui avait été pendu puis enlevé. Et puis, un autre tas de pierres, c'est un autel de pierres brutes sur lequel ils vont écrire le livre de la loi comme souvenir. Tout ça, ça laisse des monuments durables, mais qui sont parlants. Chapitre 7 avait terminé avec le tas de pierres sur Akan, le coupable. Ce tas de pierres qui rappelle l'échec d'Israël. Mais juste à côté, il y a l'état d'Haï qui rappelle la victoire. Donc il y a un tas qui rappelle la malédiction, un tas qui rappelle la bénédiction. Et justement, ces tas, quelque part, servaient de monument pour rappeler à la fois la malédiction qu'on pouvait encourir d'un Dieu saint qui veut juger le péché, mais à la fois sa bénédiction, sa grâce qui veut sauver. Et pour vivre un nouveau départ avec Dieu, c'est ce qu'il nous faut aussi. Il faut que la malédiction soit remplacée par la bénédiction. Il faut qu'on garde en tête le souvenir de nos péchés qui sont maudits, qui encourent le jugement, mais aussi le souvenir de sa grâce et de son amour et de sa victoire. Et pour nous, le grand monument durable, je dirais, c'est encore une fois la croix. Jésus, lui, a été pendu sur le bois, un peu comme ce roi d'Haï. Ils l'ont descendu de la croix pour qu'il ne soit pas laissé la nuit. Ils l'ont enterré ensuite, mais il était sur la croix, il était sur le bois, hein, comme un maudit de Dieu, lorsqu'il portait nos péchés. Mais ensuite, pour nous donner la victoire et à la bénédiction. Et maintenant, le monument qui se dresse, cette croix nous rappelle à la fois la malédiction, mais à la fois la bénédiction. Et tout ce que nous faisons ce matin, c'est quelque part se rappeler le message de la croix qui subsiste encore aujourd'hui. Bien sûr, elle est sur le mur, mais c'est pas tant l'objet sur le mur qui compte, même si c'est une bonne chose de rappeler ces choses, mais c'est le message, la vérité derrière qui subsiste encore aujourd'hui. C'est cette vérité que nous chantons dans nos chants. C'est cette vérité qui est illustrée par le baptême, une mort, puisque le péché est une chose maudite, mais aussi une nouvelle vie, puisque Dieu donne la victoire, un nouveau départ. Je souhaite même que notre Église tout entière, composée de pierres vivantes, soit comme un tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui à la gloire de Dieu qui rappelle sa victoire. D'ailleurs, l'autel qu'il devait faire, c'était particulier, l'autel devait faire avec des pierres brutes sur lesquelles on n'avait pas taillé. C'est que c'est comme Dieu veut rappeler que c'est... J'ai pas besoin d'une grande décoration, d'une grande qualité artistique dans l'autel. Je veux plutôt un autel brut pour rappeler que c'est mon œuvre, que c'est ma grâce, que je suis en train de faire quelque chose. Et l'important, c'est que vous obéissez ma parole, pas une apparence. Et c'est pareil pour nos vies. Nous sommes comme des pierres. Un brut, mais il veut graver sa loi sur nos cœurs et nous pouvons vivre à sa gloire pour faire souvenir. Pour faire subsister le souvenir de sa victoire. Oui, en Adam, l'humanité entière a connu l'échec et la défaite, et nous avons été entraînés de manière solidaire dans cet échec, cette défaite. Mais en Jésus, notre Josué, Dieu donne une deuxième chance. Votre vie, encore ce matin, peut connaître une deuxième chance, un nouveau départ. C'est possible par la croix de Christ. C'est là où nous avons tous rendez-vous. Avec notre passé, pour qu'il soit géré, pris en charge, effacé. C'est là où nous découvrons la stratégie cachée de Dieu, et c'est là où nous avons un souvenir durable, un monument durable, qui subsiste encore aujourd'hui, du message de la croix qui nous est parvenu dans la Bible, que nous pouvons prendre à cœur encore ce matin. Je vous invite à prier en vous souhaitant tous de vivre ce nouveau départ avec Dieu. Seigneur, merci pour cette célébration que nous avons pu t'offrir ce matin. Merci pour le beau message de la Bible qu'un nouveau départ est possible, qu'on peut recommencer avec toi, que là où il y avait échec, il peut y avoir victoire. Nous avons vu ça dans les témoignages et dans le baptême même. Et je te prie que chaque cœur puisse l'expérimenter pour lui-même ce matin. Fais-nous cette grâce de nous rendre victorieux, de nous donner une nouvelle vie, une vie éternelle avec toi par Jésus-Christ. Et nous te louons en son nom. Amen.